J'ai une excellente question pour vous. La parole de Dieu est-elle accessible dans toutes les régions du monde? Cette même parole va nous donner une réponse claire et encourageante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Le Seigneur va continuer à nous enseigner aujourd'hui au sujet de sa parole. Alors que le livre de l'Apocalypse répondra à chacune de nos questions. Alors les voici. Quand nous répandons la parole de Dieu, devons-nous en évaluer les résultats? Devons-nous croire en l'inspiration divine de la Bible? Les croyants qui servent le Seigneur doivent-ils attendre d'aller au ciel pour entendre la voix du Seigneur leur dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître ». Qui fait partie du véritable peuple de Dieu? Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui s'intéressent au sujet du retour de Jésus-Christ? La parole de Dieu est-elle accessible dans toutes les régions du monde? Jésus viendra-t-il réellement chercher son Église par un enlèvement un jour? Quand Jésus a dit qu'il viendrait bientôt, voulait-il dire qu'il viendrait dans peu de temps? Quand les croyants vivront dans la Jérusalem céleste, pourront-ils aller n'importe où? Est-ce que le message que le Seigneur Jésus a envoyé à l'Église de Philadelphie s'applique aux croyants d'aujourd'hui? Restez là, nos réponses ne vont pas tarder et elles viennent toutes de la parole merveilleuse de Dieu qui nous sera enseignée par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Oui, ta parole est merveilleuse, Seigneur, et on est heureux d'être devant toi aujourd'hui pour la recevoir de la bouche de ton serviteur, mais on sait qu'elle vient de ton cœur, de ta pensée, et on veut être vraiment attentif, alors on te demande de nous aider à nous concentrer sur toi, sur ce que tu vas nous dire aujourd'hui, afin qu'on puisse grandir en toi pour mieux te servir, pour être des vrais adorateurs pour toi. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avions commencé à énumérer les 7 paroles élogieuses du Seigneur Jésus-Christ adressées à l'Église de Philadelphie et rapportées dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Chers amis, lisons Apocalypse chapitre 3, verset 8. « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Premièrement, il connaissait les œuvres de cette assemblée, car il produisait du fruit selon sa volonté. Deuxièmement, il mentionnait qu'elle avait peu de puissance. Comme Jésus, lorsqu'il était sur la terre, l'Église de Philadelphie n'avait rien pour attirer le regard des foules. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 53 que son aspect n'avait rien pour plaire au monde, mais cela plaît à Dieu. Car, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27, « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu le seul juge. » N'oublions jamais notre faiblesse, car sinon nous pourrions tenter d'accomplir la volonté de Dieu par nos propres moyens, plutôt que de nous appuyer sur lui. Et une fois notre travail accompli, n'essayons pas d'en voir les fruits par nous-mêmes, car notre perspective humaine est limitée. Il m'arrive d'être las d'entendre des groupes chrétiens dresser leurs rapports, même ici. Nous aimons dire combien de gens écoutent nos émissions de radio, de télévision, combien de gens participent à nos déjeuners de l'espoir et à nos camps d'évangélisation. Oh, comme nous aimons parler de ces choses! Mais tout cela n'a en réalité aucune importance. Nous aimons parler des téléphones et des courriels que nous recevons et des gens qui ont reçu Jésus-Christ par l'intermédiaire de nos activités. Mais en réalité, cela n'a aucune importance. Qu'est-ce qui est important, alors? Ce qui est important, c'est que nous répandions la parole de Dieu tout autour de nous. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Les résultats ne sont pas de notre ressort. Nous transmettons le message, mais c'est le Seigneur qui touche les cœurs. C'est lui qui attire les âmes rebelles à lui. Nous semons la parole, mais c'est Dieu qui la fait germer dans les cœurs. Nous ne devrions pas chercher à évaluer les résultats de notre ministère. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul affirme « Je ne me juge pas non plus moi-même. » Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il craint de rapporter trop de conversions. Il craint d'induire les autres en erreur et de s'induire lui-même en erreur. Il craint de dresser un bilan trop élogieux de son ministère d'évangéliste. Il préfère laisser cette tâche à Dieu. Il préfère attendre d'être en sa présence afin d'obtenir son point de vue et son bilan des résultats. Témoin de la parole de Dieu. Troisièmement, que tu as gardé ma parole. À une époque où on nie l'inspiration divine des Écritures, cette Église proclame l'autorité de la Bible en tant que parole inspirée de Dieu. Un théologien du XXe siècle d'orientation libérale prétendait qu'aucune personne intelligente ne pouvait croire en l'inspiration verbale de la Bible. Selon cette définition, « Je ne suis pas très intelligent, car je crois fermement en l'inspiration divine de la Bible. » Le seul obstacle à notre parfaite compréhension de la pensée infinie de Dieu est la limitation de notre propre pensée. Mais il semble plus facile à certains de chercher à s'élever eux-mêmes en abaissant Dieu. Quatrièmement, et que tu n'as pas renié mon nom. À une époque où on nie la divinité de Jésus-Christ, dans plusieurs universités et séminaires, un groupe de croyants lui reste fidèle en proclamant le Dieu fait homme et le fait qu'il est mort à la place des pécheurs. Cinquièmement, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il pourrait s'agir d'une porte ouverte à la joie du Seigneur. Seuls les serviteurs fidèles de Dieu peuvent y entrer. Toutefois, je ne crois pas que le serviteur doive attendre après sa mort pour entendre ces douces paroles de son maître énoncées dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 25, verset 23. « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Je crois que nous pouvons vivre dès maintenant dans la joie en servant notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas. J'ai même l'impression que le reproche adressé à l'Église d'Éphèse, « Tu as oublié ton premier amour », allait un peu en ce sens. Le travail ne s'accomplissait plus dans la joie. Il peut également s'agir d'une porte ouverte sur la connaissance des Écritures. Et si le Seigneur nous ouvre cette porte, il désire nous voir y pénétrer. Car alors il nous ouvrira une porte d'opportunité pour témoigner de sa grâce et pour proclamer sa parole. C'était le vœu le plus cher de l'apôtre Paul qu'il nous partage dans Colossiens chapitre 4 verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Il peut donc s'agir d'une porte ouverte à la joie de notre maître ou d'une porte ouverte pour l'évangélisation. Je crois que les deux vont ensemble. On a décrit l'Église de Philadelphie de plusieurs manières. Certains l'ont appelée l'Église missionnaire, d'autres l'ont appelée une Église de serviteurs, d'autres encore l'ont appelée une Église vivante. Tout cela est rigoureusement exact. Pour ma part, je préfère l'appeler l'Église du Réveil ou l'Église de la Bible, car cette assemblée croit à l'autorité de la parole de Dieu contenue dans la Bible. Notre Seigneur prend soin de souligner ce fait lorsqu'il dit « Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom ». À une époque d'incrédulité et de scepticisme, le Seigneur Jésus félicite une Église qui a gardé sa parole et elle ne s'est pas contentée de la garder pour elle. Elle l'a répandue dans toute la région. Or, en autant que nous le sachions, cette Église de Philadelphie a survécu plus longtemps que les six autres mentionnées dans ces lettres de l'apôtre Jean contenues dans l'Apocalypse. Elle a continué d'exister jusqu'au XIIIe siècle. Elle a été détruite lorsque les Turcs ont brutalement assassiné tous les chrétiens qui restaient dans l'Église. Cette Église avait un élan missionnaire et on dit que le christianisme a pénétré tôt en Inde parce que cette assemblée y avait envoyé plusieurs missionnaires. Le véritable peuple de Dieu. Apocalypse, chapitre 3, verset 9. Voici, Je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Apparemment, on trouvait aussi une synagogue juive à Philadelphie. L'Empire romain utilisait des Juifs dans un but de colonisation. Rome avait l'habitude d'envoyer une colonie de Juifs dans une région étrangère, comme c'est le cas ici. Pour cette raison, on pouvait trouver beaucoup de Juifs dans cette ville. Au temps où l'apôtre Jean écrit cette lettre, le reste d'Israël, ayant été sauvé par sa foi en Jésus-Christ, avait quitté la synagogue pour se joindre à l'Église. Ses élus avaient abandonné la loi judaïque en tant que moyen pour obtenir le salut et la sanctification. Ils s'étaient alors joints aux non-juifs qui avaient reçu Jésus-Christ. Ceux qui étaient demeurés dans la synagogue faisaient maintenant partie d'une fausse religion. Comme l'apôtre Paul le mentionne dans Romains chapitre 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Selon l'apôtre Paul, les Juifs demeurés dans leur synagogue n'étaient plus d'authentiques Juifs, car le véritable Juif était celui qui s'était tourné vers Jésus-Christ. Le patriarche Ignace parle d'un développement logique où les convertis, provenant du judaïsme, prêchaient maintenant la foi qu'ils avaient autrefois méprisée. Ceci nous amène à la sixième bonne parole de notre Seigneur Jésus-Christ à l'endroit de l'Église de Philadelphie. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Jésus déclare que quelques-uns des ennemis de cette Église verront éventuellement leur erreur. Ils admettront que Jésus a aimé son Église. Ils quitteront à leur tour leur synagogue pour se joindre à l'Église de Dieu. Le privilège d'une Église fidèle. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Septièmement. Le Seigneur Jésus fait ce dernier éloge de l'Église de Philadelphie, car elle a gardé avec persévérance la parole de Dieu. Selon toute évidence, il s'agit de la patiente attente du jour où le Seigneur viendra chercher les siens, comme il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De nos jours, nous assistons à un intérêt pour les doctrines eschatologiques telles qu'on n'en avait jamais vu auparavant. En conséquence, ces doctrines sur le retour futur du Seigneur Jésus-Christ se sont davantage développées durant le dernier siècle que pendant les 19 premiers siècles d'histoire de l'Église. Nous assistons à un regain d'intérêt pour ces enseignements autant sur le vieux continent que sur le nouveau. À vrai dire, le sujet du retour de Jésus-Christ semble passionner tous les chrétiens à travers le monde. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Cette parole de persévérance et de patience vient de Dieu, car il a fait preuve d'une grande patience envers un monde qui a rejeté sa parole. Rappelez-vous le jugement sévère de Dieu sur les impies au temps de Noé. La parole de Dieu n'était pas accessible sous forme écrite, et pourtant, Dieu les a jugés quand même, et il les a tous fait périr par le déluge. Tout ce qu'ils avaient, c'était un homme qui leur apportait le message de Dieu et qui construisait une arche. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est accessible à tous. On trouve des Bibles Gédéon gratuites dans presque tous les hôtels qui veulent bien les prendre, et cela à travers le monde, autant en Europe qu'en Asie ou en Afrique. De plus, avec l'Internet, une recherche de quelques minutes sur la toile vous permettra de télécharger une version virtuelle et gratuite de la Bible sans que vous ayez à vous déplacer. La parole de Dieu est accessible dans toutes les régions du monde. Dieu est patient, mais quelle excuse reste-t-il aux hommes pour demeurer sourds à sa volonté? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dans la dernière parole d'encouragement destinée à son Église, le Seigneur lui promet qu'elle n'aura pas à passer à travers la grande tribulation. L'ensemble de la véritable Église de Dieu sera enlevé du monde, comme nous l'enseigne 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Si vous avez reçu Jésus-Christ, ma prière est que vous attendiez patiemment, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 6, verset 12. Il viendra chercher les siens. L'Église de Dieu ne verra pas la grande tribulation assortie du jugement de Dieu, comme nous le verrons au chapitre 13, mais elle attend le retour de son Seigneur, Jésus-Christ. L'heure de la tentation est définitivement une référence à la grande tribulation qui affectera le monde entier. Après une description des circonstances qui en favoriseront l'émergence, au chapitre 4 et 5, nous verrons en quoi consiste exactement cette période de bouleversement au chapitre 6 à 19. Ce temps de ténèbres obscurcira le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Le Seigneur ne protégera pas seulement son Église du terrible holocauste qui viendra sur toute la terre en cette période de jugement, mais il nous délivrera aussi à l'heure de la tentation. Il nous promet donc une complète délivrance. Avec une telle assurance, je ne puis imaginer comment on peut maintenir que l'Église des derniers temps devra passer par la période de la grande tribulation. De plus, je crois que le temps d'histoire de l'Église, représenté par l'Église de Philadelphie, se prolongera jusqu'à son enlèvement, car le Seigneur l'appellera à lui, afin qu'elle monte vers lui sur les nuées. Nous verrons bientôt que l'Église de Laodicée, elle, continuera dans le monde à travers la grande tribulation, et cela même si Jésus-Christ l'invite à se repentir et à se tourner vers lui. Or, même à l'intérieur de cette Église apostate, plusieurs individus se tourneront vers le Seigneur, et ils seront aussi enlevés sur les nuées. Mais l'ensemble de cette Église de Laodicée devra passer par le feu de la grande tribulation. Jésus promet donc à l'Église de Philadelphie qu'il viendra vers elle afin de l'appeler hors de ce monde. Il ne la laissera pas vivre dans cette terrible période qui affligera la terre entière. J'aimerais maintenant vous partager une autre citation tirée du livre de John Walvoord, La révélation de Jésus-Christ. Si l'enlèvement de l'Église avait eu lieu pendant le premier siècle, avant la tribulation décrite dans le livre de l'Apocalypse, l'Église de Philadelphie aurait certainement été délivrée car Dieu l'aurait appelée à lui. L'enlèvement de l'Église et la grande tribulation qui couvrira le monde ne sont donc pas des événements passés, mais futurs. Par contre, ceux qui n'auront pas été scellés à l'intérieur des 12 tribus d'Israël, tels que décrits dans Apocalypse chapitre 7 verset 4, seront assurément grandement éprouvés par ce temps de bouleversement. Cela implique donc l'enlèvement de l'Église avant cette époque de catastrophe à l'échelle planétaire connue sous le nom de grande tribulation. Car une telle promesse à cette Église aurait été impossible si l'enlèvement de l'Église avait été retardé jusqu'à la fin de la grande tribulation et donc juste avant le retour sur la terre de notre Seigneur Jésus-Christ et l'établissement de son royaume. Le Seigneur Jésus-Christ continue ainsi son message à son Église. Un appel à la persévérance. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Dans le texte original grec, le mot traduit ici par « bientôt » est « takou ». Il signifie également « rapidement » ou « à toute vitesse ». Il ne veut donc pas forcément dire « dans peu de temps ». Nous avons surtout l'idée d'un événement arrivant avec la rapidité d'un éclair. Cette interprétation est préférable car elle est conforme à l'annonce faite par Jésus-Christ lui-même dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, le verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il n'a pas affirmé qu'il reviendrait dans peu de temps, mais que sa venue se produirait soudainement. L'Église s'appuie sur cette promesse avec espérance. Elle n'a pas à s'attendre à subir la grande tribulation. Le Seigneur ne nous dit nulle part de ceindre nos reins, de serrer nos dents et nos poings parce que le temps de la grande tribulation approche et que nous devrons combattre en ces temps d'épreuve. Au contraire, il nous conduit sur le chemin de la patience, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Comme le rapporte l'apôtre Paul dans Tite chapitre 2, verset 13. L'Église de Philadelphie sera enlevée par le Seigneur lorsqu'il l'appellera à lui. Il s'agit de sa véritable Église et je ne crois pas qu'elle appartienne à une dénomination spécifique ou à une Église locale. Les véritables chrétiens sont présentement dispersés à travers le monde et nous pourrions en trouver dans de curieuses organisations. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur l'a voulu ainsi. Et cela ne me regarde pas. Je sais seulement qu'il reconnaîtra ceux et celles qui lui appartiennent, peu importe l'Église, d'où ils viennent. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Dans l'ancienne ville de Philadelphie, il reste quelques colonnes parmi les ruines. Certaines viennent de l'époque de l'apôtre Jean et d'autres de l'Église byzantine du XIIIe siècle. Mais je ne crois pas que le Seigneur parle d'une de ces colonnes qui reste encore debout lorsqu'il dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » L'Église de Philadelphie ici-bas a été détruite, mais la colonne permanente dont Jésus parle sera dans le temple de Dieu au plus haut des cieux. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Nous avons ici une forme de passeport ou de visa qui permettra aux croyants, en tant que citoyens des cieux, de voyager librement sur cette terre ou n'importe où dans le vaste univers du Créateur. Le chrétien sera une colonne qui ne sortira plus du temple de Dieu. Mais, puisque le temple de Dieu pourrait bien comprendre tout l'univers et encore bien plus, il pourra aller n'importe où avec le passeport de Dieu. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Il s'agira du nom nouveau de Jésus-Christ. Nous n'obtenons pas un nom nouveau, mais il nous fait savoir qu'il nous donnera son nom nouveau. Ce nom nouveau sera une relation personnelle renouvelée et parfaite que nous entretiendrons avec lui pour l'éternité. Chers amis, terminons notre lecture d'aujourd'hui en lisant Apocalypse chapitre 3, verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur Jésus-Christ a confié à l'apôtre Jean la mission de livrer un message à l'église locale de Philadelphie. Mais ce message s'applique également à tous les véritables croyants qui vivent aujourd'hui. Oui, chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, les versets 14 à 16. À vous tous, je vous souhaite bonne lecture.
Merci, Régent. Ça m'a réjoui quand tu as dit que les serviteurs de Dieu ne devraient pas attendre après leur mort pour entendre les douces paroles de leur maître dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Mes amis, À ceci, Régent a ajouté qu'il croyait que nous pouvions vivre dès maintenant dans la joie en servant notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Et toi, mon frère, toi, ma sœur en Jésus-Christ, est-ce que tu sers joyeusement ton Maître? J'avoue, moi, qu'il arrive des moments de tristesse dans ma vie, mais c'est donc vrai qu'on a beaucoup de joie quand on est en train de servir notre Maître, quand on est dans le feu de l'action, par lui et pour lui, qu'on sait qu'on est à la bonne place. Juste la fin de semaine dernière, je pourrais vous dire que j'étais vraiment dans la joie. J'ai eu en sorte l'opportunité d'exercer mes deux ministères en même temps. Je considère que le Seigneur m'a fait un super cadeau. C'était une fin de semaine où j'animais le temps de louange à mon église. Puis en même temps, le directeur général d'Aujourd'hui l'Espoir est venu soumettre un projet à mon église. Et ce projet est dans le but d'évangéliser dans la région de Québec. Il est venu demander qu'on participe à ce projet où on doit présenter l'Évangile à des milliers de personnes par le biais de Radio Espoir, de Télé Espoir, des Déjeuners de l'Espoir, des concerts gospel, des concerts de louanges, des distributions de l'Évangile de Jean et toutes sortes d'autres activités. Quelle joie pour moi, mes amis! Je pouvais louer mon Dieu et en même temps voir mes frères et sœurs en Jésus-Christ se joindre à nous pour cet effort d'évangélisation. Ça a été une double bénédiction pour moi. Alors, merci, Seigneur. J'aimerais terminer cette émission aujourd'hui en vous lisant un psaume de louange. C'est le psaume 100. C'est un psaume de joie. Alors, voici ce qu'il dit. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Mes amis, il y a ici de quoi réjouir tous les enfants de Dieu. Et toi, mon ami, es-tu un enfant de Dieu? Sinon, le Seigneur a un beau message pour toi aujourd'hui. Il est tiré du premier chapitre de l'Évangile de Jean au verset 12, où il dit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, qu'à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, mon ami, la parole, c'est Jésus lui-même. C'est celui qui a donné sa vie en mourant sur la croix pour toi. C'est celui qui a souffert pour toi, dans le but de payer une place pour toi au ciel. Et tout ce que tu as à faire, c'est de recevoir ce cadeau qu'il t'offre maintenant. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle, et il va le faire. Demande-le-lui maintenant.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Régent?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.